France Inter.
La violoniste et écrivaine Léonore de Récondeau a autant traversé qu'interrogé les frontières. À 18 ans, elle reçoit la bourse Lavoisier et se rend à Boston pour poursuivre sa formation avec Michel Auclair. Elle devient violon solo du New England Conservatory de Boston, mais vivra aussi à La Haye et à Bruxelles. En 2004, elle est lauréate du concours de musique baroque de Van Wassenaar. Allez-y, aidez-moi.
Van Wassenaar.
Van Wassenaar, non pas impeccable au bout de la troisième fois, aux Pays-Bas. Co-fondatrice de l'ancien ensemble vocal et instrumental baroque Lyriade, contraction entre Iliade et Lyrique, elle joue également pour d'autres ensembles de musique ancienne. En littérature, elle publie La Grâce du Cyprès Blanc, Les Rêves Oubliés, Amour, couronné de plusieurs prix, Point Cardinal, Manifesto, La Leçon de Ténèbres ou encore Revenir à toi. Issue d'une lignée d'artistes et du côté paternel d'une famille ayant fui la guerre civile espagnole, elle convoque dans son œuvre les fantômes de l'histoire et les spectres familiaux et explore les thématiques de l'identité, de la filiation, de la transmission et du rôle de l'art. En cette rentrée, elle publie trois ouvrages. Marcher dans tes pas aux éditions de l'Iconoclaste sur sa grand-mère au moment de l'exil, Goya de père en fille chez Verdier sur son père, et l'autre type illustre dont le nom apparaît dans le titre. Et elle vient de faire paraître aux éditions du Musée d'Histoire Naturelle un livre jeunesse intitulé Alma et la Vénus Noire, illustré par Maxime Sudol. Garcia Lorca nous rejoindra un moment, je ne vous dis pas quand, je ne livre pas tout. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Léonore de Récondeau.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé?
De prendre le vélo pour venir à Radio France. J'ai traversé Paris et c'était formidable de retrouver Paris et la Seine.
Vous êtes passée par les pistes cyclables?
Absolument.
Donc vous faites partie des rares personnes à être très contente de ces aménagements?
Oui, peut-être.
Quelle est la différence entre la solitude dans la musique et la solitude dans l'écriture?
Alors, la solitude dans la musique, elle ne l'est jamais tout à fait, parce que d'abord, on interprète la parole d'une autre ou d'un autre, et on interprète une composition, donc on n'est déjà pas seul, puisqu'on est en dialogue avec la composition. Le compositeur, la pensée du compositeur ou de la compositrice. Après, évidemment, on est seul avec soi-même et avec ses difficultés et avec la recherche qu'on a de progresser ou justement de comprendre cette partition. Mais on n'est pas tout à fait seul et on l'est encore moins quand on répète, quand on travaille pour le concert, puisque tout ce travail en amont, en général, il est collectif. Alors qu'en littérature, le travail en amont, il est vraiment éminemment solitaire. Moi-même qui écris la partition, je vais pas l'interpréter. Donc je dirais que peut-être aussi, comme il y a cette notion de silence en littérature qui remplit l'espace, je suis pas accompagnée ni de violon, ni de son. La solitude de l'écrivain, de l'écrivaine, pour moi, me semble plus grande.
Elle est difficile à supporter pour vous, vous l'avez apprivoisée?
Non, elle est complexe, elle est large, elle est épaisse, elle est faite d'une matière comme ça, dense, la solitude en écrivant, mais elle est riche, c'est là que ça se passe, c'est dans cette solitude-là, dans cette matière-là que je fais mon travail en tout cas.
La musique qui vous a appris la rigueur et la discipline, vous dites d'elle qu'elle fait travailler d'autres connexions neuronales.
Oui, je crois. Je crois que quand on grandit, quand on apprend un instrument très tôt, moi j'ai commencé le violon à 5 ans, ce qui en général est nécessaire quand on veut devenir professionnel, parce que je pense qu'il faut grandir avec un instrument et qu'il y a donc de ces connexions neuronales et sûrement musculaires qui se font au gré de la croissance et qui n'existent qu'au gré de cette croissance-là, donc une croissance musculaire et de l'ossature, mais aussi certainement du cerveau. Ça donne une forme de plasticité, en tout cas. Et ça me semble très important.
Vous dites que le violon est presque devenu une partie de votre corps comme une greffe.
Oui, je crois que c'est quelque chose qu'on sent à certains moments de l'apprentissage, quand le violon tout d'un coup fait partie de soi. Aujourd'hui, j'ai un étui avec mon violon et je l'ouvre et je le referme, mais c'est toujours quand je prends mon instrument. Bon, puis c'est vrai que le violon, il y a quelque chose de... On l'embrasse, il fait quand même partie avec l'archet, il y a ce point de contact sur la corde et c'est le geste comme ça d'embrasser l'instrument. Je sens sur ma clavicule, sur mon corps, dans mon corps, que cet instrument est avec moi, est à l'intérieur de moi, il n'est plus extérieur. Et ça, c'est long, en fait. C'est peut-être le plus long dans l'apprentissage d'un instrument. C'est faire corps avec l'instrument. Et à ce moment-là, on a progressé. Il y a quelque chose qui se passe, oui, je pense, justement, peut-être des connexions neuronales et des muscles qui prennent l'instrument avec soi.
Vous avez le même depuis des années ?
J'ai le même, j'en ai plusieurs en fait, pour plusieurs répertoires. Alors quand on est petit, on commence sur des petits instruments, on grandit avec. Et puis vers 12-13 ans, quand on a atteint sa taille plus ou moins adulte, on a un violon entier, comme on dit, de sa taille définitive du violon. Et depuis mon adolescence, j'ai changé quelques fois de violon, mais là j'en ai deux. Un pour jouer la musique contemporaine, donc un violon moderne, comme on dit, qui est monté avec des cordes en métal. Et j'ai un violon baroque, qui est celui que j'utilise le plus, qui est monté avec des cordes en boyau et qui date de la fin du XVIIIe siècle.
Vous dites qu'il y avait de la musique à la maison, mais pas de musicien, et que vous vous êtes dit sans doute ce domaine... Il est à moi, mais vous aviez tout de même un oncle facteur de clavecin, c'est-à-dire qu'il les fabriquait.
Oui, c'est ça. Philippe Humeau, qui est le frère de ma mère, fabrique des clavecins. Dans les années 70-80, il y a eu un renouveau, une recherche historique de la facture des instruments pour pouvoir interpréter comme ils étaient écrits, les morceaux du XVIIe et XVIIIe siècle. Donc il y a eu vraiment une recherche d'interprétation pour les musiciens, mais aussi pour les facteurs d'instruments, aller rechercher des traités pour comment étaient faits les violons, quel type de cordes on utilisait. Et aussi, Philippe Humeau, donc, qui fait des clavecins, est allé dans les musées faire des copies des clavecins du XVIIe et XVIIIe siècle et en faire des copies modernes pour que les clavecinistes puissent en jouer. Donc il y a eu toute une recherche et moi, en allant chez lui, je le voyais à l'œuvre et je voyais ces instruments qui naissaient sous ses mains. Donc toute cette partie de la famille-là était musicienne et mes parents étaient mélomanes, ils écoutaient beaucoup de musique.
Le violon parfois peut rire dans une composition, mais il est souvent mélancolique. Mmh. Et vous avez dit dans une interview de mémoire que parfois, quand vous l'avez découvert, ça vous a aidé à exprimer des blessures que vous n'arriviez pas à exprimer en mots. Est-ce que vous pensez que le violon est un instrument fondamentalement mélancolique ?
Non, je pense pas. Je pense que c'est un instrument très expressif. Et que quand on manque de mots, et aujourd'hui encore... il m'arrive, quand j'ai pas de mots, de prendre mon instrument, et c'est peut-être là que ce sont d'autres connexions neuronales que celles de l'écriture et de la parole. L'expression musicale, c'est quelque chose de physiologique, quelque chose qui va droit au cœur. C'est pour ça aussi qu'on est toutes et tous bouleversés par la musique qu'on peut écouter, extrêmement émue, sans trop savoir pourquoi. Une musique nous touche tellement profondément, et c'est aussi parce que justement, ça utilise un autre passage, d'autres canaux, peut-être quelque chose de moins analytique que les mots. Et donc, il m'est arrivé dans des moments tragiques de ma vie de ne pas trouver les mots et de prendre donc mon instrument.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Je suis avec la violoniste et écrivaine Léonore de Récondo. La musique, ça a commencé très tôt de façon visible, mais l'écriture aussi, puisque dès le lycée, vous écriviez des journaux intimes, de la poésie, du théâtre, et vous dites même que vous allez jusqu'à questionner votre pratique musicale. C'est très précoce pour le faire. Je vous imagine avec un binocle en train de réfléchir aux partitions.
Oui, je ne sais pas comment dire, quand on a un compagnon, le violon, c'est surtout quand on est adolescent... c'est un compagnon de route qui est quand même un peu fatigant et extrêmement exigeant. C'est-à-dire, moi, au lycée, j'étais parisienne, donc je suis allée au lycée Racine, qui est un lycée à mi-temps, où j'allais en cours le matin et je travaillais mon violon l'après-midi, que je travaillais, je sais pas, 4 heures ou 5 heures par jour. Donc, les autres adolescents n'ont pas la même vie que nous. on n'est que des musiciens dans ces établissements-là. Donc, il y a une forme d'entre-soi et évidemment de réflexion de pourquoi est-ce que je m'inflige ça. Enfin, et puis, on sait bien, en tant que musicien ou en tant qu'artiste aussi, hein, mais avec la musique, c'est si précoce, on sait bien que c'est pour toujours. Et c'est quand même une sorte d'enfer absolu. C'est-à-dire, mon violon, c'est quelque chose que ma pratique musicale, c'est quelque chose que je remets sur le tapis. Chaque jour, je dois travailler. Il y a des morceaux que je joue et que je travaille qui sont des choses très, très intimes et très proches où j'aime entrer et j'aime ce travail-là quotidien. Mais je sais que c'est toute ma vie. Alors, des fois, c'est très beau de se dire qu'on sera accompagné, que jusqu'à ma mort, il y a des morceaux, des pièces que je vais jouer et qui ont été là, comme des sortes de présences, comme les fantômes. La musique peut aussi être un fantôme, qui est donc une sorte de mélodie, voilà, la musique d'une vie, on va dire. Mais aussi, c'est extrêmement exigeant de pourquoi s'infliger ça. Et moi, quand j'avais 14-15 ans, évidemment, je questionnais, j'essayais d'analyser cette pratique musicale. Et j'ai, oui, pas mal écrit sur ça. Et comme je viens d'une famille d'artistes où beaucoup de peintres ou de photographes, hein, ça circulait à la maison, disons, et c'est ce que je vis finalement aujourd'hui, j'avais un esprit plutôt ouvert. Je pensais déjà, sans trop pouvoir le formuler, que l'art est quelque chose à part entière, c'est une manière de vivre, c'est un engagement dans la vie, l'art. Et que ce soit à travers l'écriture, la photo, la musique, finalement, tout ça, c'est la même chose.
Vous avez parlé du corps quand on a évoqué le fait que votre violon soit devenu comme une greffe. La question du corps, c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup. Le rapport qu'on a, surtout en Occident, où c'est jamais très fluide et facile. Est-ce que vous pouvez nous parler du corps en musique, en littérature, parce qu'on oublie souvent, mais dans l'écriture, le corps est là, et il peut être douloureux aussi, on en a besoin, et de votre rapport au corps?
Vous avez 2-3 heures devant vous.
Bien sûr.
Formidable. Alors, le corps musicien, c'est donc grandir avec cet instrument, faire sien un instrument qui est en vrai, du bois pris dans une forêt. Donc moi, mon violon, 18e siècle, certainement, le bois a été coupé à la fin, disons, en 1780. Et puis, on va des planches de bois qui vont devenir, de cette matière organique, un instrument va naître. Et je pense souvent à tous ceux qui m'ont précédé sur cet instrument et celle qui jouera ce violon après moi.
Donc il est hanté aussi, cet
oui,
instrument.
Oui, exactement. On a toutes posé notre menton sur ce bois, quoi.
Et est-ce qu'on a mal au menton ou à
non,
la
on n'a pas mal au menton. Non,
ah bon
non, on a le menton détendu.
Alors on a mal nulle part quand on fait du violon.
Non, alors on peut avoir des tendinites si le corps justement est tendu et on a une pratique trop forcée de l'instrument. Moi, je touche du bois, ça ne m'est pas arrivé. Donc le corps musicien, c'est un corps évidemment très exigeant parce qu'on travaille avec nos mains, on travaille avec nos bras, on travaille avec tout notre corps qui doit être l'expression de l'âme.
Vous devez vous étirer, vous faire de la musculation pour la musique
Alors c'est plutôt rééquilibrer le corps parce que dans l'enseignement musical, alors aujourd'hui c'est peut-être différent d'il y a 40 ans, on parle beaucoup juste de la main droite et de la main gauche et on imagine bien qu'avec une main droite et qu'une main gauche sans bras, ni corps, ni torse, ni bassin, ni jambes ne peuvent pas jouer. Donc souvent, il y a un déséquilibre pour les instrumentistes qui est une surutilisation du haut du corps et des bras et une méconnaissance de tout le reste et de l'équilibre entier. Donc ça, on apprend et surtout, on apprend à, comme une fois que l'instrument fait partie de nous, on apprend à chanter avec, on apprend à être expressif avec. Et le corps musicien, c'est justement un corps qui se passe de mots, qui a beaucoup travaillé, mais qui est là pour se libérer de cet apprentissage et pour donner à entendre la beauté d'une partition et une vision singulière qui est celle de l'interprète de cette partition. Donc c'est vraiment un corps au service mais aussi à l'œuvre d'une musique. Ça c'est vraiment merveilleux, vraiment. Moi maintenant j'écris beaucoup et vraiment la littérature est un lieu d'expression et de pensée où je puise beaucoup de force dans ma vie, mais quand j'ouvre ma boîte de mon étui de violon, que je prends mon violon, il y a une sorte de respiration qui se met en moi, une sorte de paix intérieure, même si je vais travailler quelque chose de difficile, il y a quelque chose qui s'aligne en moi, parce que c'est autre chose, parce que la musique, ça provoque aussi quelque chose du corps qui a été travaillé et qui, je sais pas, ça, c'est comme si ça se met ensemble avec, avec le souffle, avec les tendons, avec la respiration. Et puis, c'est quelque chose de la vie qui se joue dans l'instant de la musique.
Et pourtant, à un moment de votre vie où vous avez eu plusieurs deuils, vous ne pouviez plus pratiquer la musique et seule l'écriture, en vous enfermant chez vous, était possible. C'était la seule chose qui ne tanguait pas.
Oui, parce qu'il y a cette oscillation des impossibles, des possibles et des impossibles. C'est-à-dire que quand on est submergé par une émotion qui, liée au deuil, c'est le fait d'accepter ou c'est inacceptable. Enfin, quand on est coincé dans l'impasse de l'inacceptable, alors j'ai oscillé entre la musique, qui parfois justement me permettait de me dégager de la nasse des mots et revenir aussi à pouvoir écrire ce qui se passait et ce qui me semblait si impossible qu'il fallait que je le voie écrit, moi écrivant, pour pouvoir l'accepter.
Une fois, elle a tenté d'en parler à Huguette, dans l'escalier de service. Toute tremblante, elle a bredouillé « C'est monsieur de Boisvaillant !» Ses genoux ont commencé à claquer. Huguette a tout de suite compris. Elle lui a dit de se taire, répétant plusieurs fois « Tais-toi !» Elle ne t'avise pas d'en parler à madame. Elle a regardé en silence les genoux qui s'entrechoquaient, puis elle lui a tourné le dos en ajoutant « Garde la tête haute. C'est tout ce que nous pouvons faire, nous autres. Garder la tête haute pour faire croire qu'on n'a pas honte. »
C'est vous qu'on entend, Léonore de Récondeau, lire votre roman « Amour » qui se déroule en 1908. Et tout à l'heure, je vous parlais de votre rapport au corps et je n'ai pas oublié que toutes les réponses n'avaient pas été données, puisque ce livre en parle justement, c'est le parallèle entre les corps photoshopés d'aujourd'hui et les corsets de l'époque qui vous avaient sauté aux yeux. Et donc, je vous repose la question, quel est votre rapport au corps ?
Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas répondu à cette question.
Et le corps en écriture ?
Et le corps, ouais. Et donc, le rapport à mon corps, ça va.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. Je vais dire que ça va. J'ai passé du temps à l'apprivoiser, comme tout le monde. Mon corps est mon compagnon de route jusqu'au bout. Donc j'ai envie d'être en paix avec lui. Et il m'apporte la possibilité de la musique et de l'écriture. Donc en fait, mon corps, voilà, j'aime mon corps parce qu'il m'offre tout ça.
C'est un allié.
C'est un allié. Absolument, c'est un allié. C'est un compagnon. Et le corps en littérature ?
En écriture.
En
oui.
Écriture. Ben, pour continuer dans cette veine, c'est mon corps qui me permet d'écrire. J'écris à la main, j'écris pas à l'ordinateur. J'écris d'abord mes manuscrits au crayon papier.
Et vous n'avez pas mal à la main. Alors pardon, on dirait que je fais des questions de Santé Magazine, mais comme j'ai 188 ans en vrai, j'ai envie de savoir si on a mal au menton en faisant du violon, oui. Si on a mal à la main en écrivant.
Je vais vous dire quelques trucs, c'est que le crayon à papier permet de ne pas trop appuyer.
Ah,
mais oui, voilà.
Mais pas mal.
Mais oui, il y a une forme de douceur si on choisit une mine pas trop dure.
Ah oui, ah oui, ah oui, il y a des histoires
pas
de
plus
HB.
Moins que HB. Voilà, HB bien, B mieux. Mais HB bien.
Car B gras.
B gras, H terrible.
Oh là là.
Trop dur.
Pas de H pour
non,
nous.
Non, pas de H4 ou de 4H ou de
non,
2H.
Non. Non,
non. Non. Donc le crayon en papier permet une certaine douceur sur le papier et surtout permet à la gomme de faire son entrée.
Ça devient très sensuel.
Très. Et je crois que c'est ma manière à moi, en ayant eu deux parents qui dessinaient énormément, de dessiner à mon tour. Donc, je n'ai pas mal, ni au poignet, ni à la main, ni au doigt. Et j'alterne l'écriture. En fait, j'écris à la main aussi parce que j'écris vite et très, très mal. Et ça, c'est un problème. J'ai des problèmes de relecture. Et au fur et à mesure de l'avancée de mon manuscrit, je le tape à l'ordinateur. Donc, je ne passe pas des mois. Il y a cette alternance entre l'écriture manuscrite et le tapuscrit. Voilà. Donc, ma main droite va bien.
Et la gauche ?
Aussi.
Bon, très bien. Et la sixième ?
Aussi.
Ok. Vous avez écrit « Point cardinal » qui raconte la transition vers le genre féminin de Laurent. Et vous abordez souvent la question du genre, de la sexualité dans plusieurs de vos ouvrages. Enfin, plutôt, plus que la question du genre, justement, la question de la fluidité, de la liberté, de l'affranchissement des catégories. Est-ce que « Point cardinal » a coïncidé avec une transmutation personnelle, une mue ?
Je sais pas. Je crois que oui, par rapport au long chemin qu'est l'émancipation et la quête de soi. C'est comme si point cardinal, c'est après amour, venait dans le même chemin pour continuer ce travail autour du corps et d'être dans son corps et d'être à sa place dans son corps et comment être et ou comment ne pas être à sa place et comment l'écrire. Ce qui m'a intéressée dans Point Cardinal, qui a été publié il y a 10 ans déjà, et qui finalement c'est un moment où il n'y avait pas tellement de fiction en France sur la transidentité, la question de comment dans la langue écrire le corps, écrire cette transition, ça a été un questionnement très 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 profond de la liberté que j'allais moi-même prendre en tant qu'autrice pour pouvoir affronter ces questionnements très intime et très important. Comment la question de fond, aussi dans le point cardinal, c'était comment se définir si rien dans la langue ne le permet. Donc, est-ce qu'on existe si il n'y a aucun vocabulaire pour nous dire dans une langue ?
Parce que justement, vous avez remarqué à cette occasion à quel point la langue française était genrée. Et donc là, je passe au langage musical qui est donc abstrait. Mm-hmm. La musique est-elle genrée ? A-t-elle un sexe ?
Non, je dirais que non. Je dirais que le monde musical en a un, malheureusement. Mmh, bah oui. Voilà.
Bon, bah, c'est une très bonne réponse.
Donc, très rapidement, malheureusement, on passe de la musique au monde musical. Et là, évidemment, il y a un problème d'égalité des chances et un problème d'égalité de pouvoir pour les femmes en tant que musiciennes, comme partout.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Quel est le nom de l'artiste ?
Francisco Goya.
N'est-ce pas l'homme à qui vous avez passé commande de votre portrait ?
C'est lui, père.
Pourquoi l'avez-vous choisi ?
En toute humilité, père. Je l'ai choisi pour les mêmes raisons qui ont poussé notre roi et notre reine à le nommer peintre du roi. Ils le tiennent pour le plus grand peintre d'Espagne.
Ces gravures sont assez troublantes, je dois dire.
Troublantes ? Oui, oui, elles le sont, certes. Mais, père, ces gravures montrent le vrai visage de notre monde.
2006, extrait du film Les fantômes de Goya de Miloš Forman. Une excuse évidemment déjà pour dire Miloš Forman à l'antenne et pour aborder votre ouvrage Léonore de Recondo, Goya de père en fille. Et alors ce qui est frappant, c'est que vous aviez déjà écrit sur votre père dans Manifesto, vous avez déjà écrit sur l'exil de votre famille dans Rêves oubliés, également dans le livre dont on va parler dans quelques instants, et là c'est venu d'une conférence que vous avez donnée sur la filiation et la transmission au banquet du livre de la grâce. Et vous vous demandez vous-même d'ailleurs pourquoi vous revenez sans cesse à cette terre de fantômes.
Oui, ce livre est la retranscription d'une conférence que j'ai donnée en 2023 lors du banquet du livre à la grâce, et le sujet de ce festival du banquet était les générations. Et donc moi je me suis m'a sauté aux yeux la question de la transmission, donc de l'exil familial, à travers l'art et à travers la présence de Goya dans l'atelier paternel, enfin de parental plutôt, de mes parents, où il y avait donc ce livre des désastres de la guerre, ces gravures que je prenais enfant et qui finalement, alors que j'étais toute petite, je ne savais pas encore de manière très très claire et évidente ce que représentait l'exil de la famille, donc de mon père, mais je prenais ce livre-là. Je crois que les questions de fond. D'abord, je pense qu'on tourne souvent autour des mêmes sujets et que les différents livres sont des manières d'approcher ce qui nous travaille le plus de manière différente. Je crois pas, enfin en tout cas, moi je sais pas si je suis capable d'une multitude de livres, et la question qui est toujours un peu la même, la question de l'identité dont on a déjà parlé, la question de la frontière, de la quête de soi, du dépassement de ce qui nous a été donné ou de ce qu'on a perdu, sont vraiment le corps et le cœur de mon travail. Donc, avec Goya, j'arrive moi-même, je dirais, un peu au mi-temps de ma vie, et ces questions je me les repose, c'est-à-dire la question de l'identité, de qui suis-je par rapport à cet exil familial, je me la repose aujourd'hui, peut-être je me la reposerai dans 30 ans, mais je fais une sorte de point aujourd'hui, aidé par une conférence, aidé par une loi dont on va certainement parler. Oui. Voilà, donc je reviens, j'avance, je n'écris pas la même chose, j'avance sur ce chemin.
Je voudrais parler de deux choses, justement, puisque vous évoquez la transmission. D'abord, un âge, 4 ans, qui résonne de façon triple, puisque 4 ans, c'est l'âge auquel votre père, le peintre Félix de Recondo, a fui l'Espagne avec sa mère, votre grand-mère. Vous aviez 4 ans aussi quand il vous l'a raconté. Et 4 ans, c'est aussi l'âge où vous avez dit à vos parents « je veux faire du violon ». Ils ont attendu un an. Vous en avez fait à 5 ans, mais quand même 4 ans, c'est un âge très important chez vous. Et l'autre chose, c'est le Riolet.
Oui.
Alors ça, faut que je vous laisse nous le raconter.
D'accord. Alors, je parle de cette journée du 18 août 1936, quand ma grand-mère, à Irún, au Pays Basque, côté espagnol, la guerre civile a déjà commencé depuis un mois environ. Le Pays Basque est un endroit stratégique pour le coup d'État, puisque c'est la frontière avec la France. Donc les franquistes essayent très tôt de conquérir le Pays Basque. Et donc toute la famille de mon père, ma grand-mère, tout le monde est républicain. Donc ce 18 août 36, ils vivent à Irún. Irún est sur la frontière, c'est vraiment en face de la France, en face d'Andaye. Ils sont là. Le 18 août, c'est l'anniversaire du frère de mon père, qui a 7 ans ce jour-là. Mon père a 4 ans, donc. Et ma grand-mère, Enriqueta, cuisine un riolet. C'est la matinée, on frappe à la porte et on leur dit « il faut partir, tout le monde part maintenant parce que vous allez être fusillés ». Donc, ils partent, mon père et ses deux frères.
Ils sont neuf.
Trois générations qui partent, les grands-parents.
En dix minutes.
Elle a pris, on lui a dit, ben bon. Et comme ils étaient à la proximité de la frontière et qu'il y avait ce pont, le pont international, il y avait encore à ce moment-là quelques mouvements et c'était possible de traverser la frontière sans rien et sans questionnement. Donc, ils partent. Ils partent et ils pensent qu'ils vont peut-être pouvoir revenir. Ils ne reviendront jamais. En traversant le pont, ils sont déchus de leur nationalité. Donc, ils deviennent apatrides en arrivant en France. Et jusqu'à la mort de Franco, en 75, personne ne reviendra sur le territoire espagnol.
Et votre père est resté apatride pendant 40 ans.
40 ans, voilà.
Par choix.
Et c'est vrai que quand il me raconte cette histoire, dans cet âge-là aussi, où c'est peut-être moi qui fantasme d'avoir cet âge-là, mais je dis et je crois que j'ai cet âge-là, il me raconte toujours l'histoire du Riolet. Et moi, toujours, je me suis demandé qui avait mangé le riolet. Qu'est-ce qui s'était passé dans cette maison? Qui, une fois la porte fermée, est entré? Les voisins?
Est-ce qu'il a été laissé sur la
table? Et longtemps, j'ai pensé que ce riolet était une sorte d'image figée de la guerre, ou peut-être il existait encore. Je me demandais si 30 ans après, 50 ans après, 60 ans après, j'allais frapper à la porte, j'allais peut-être trouver ce riolet tout rabougri, desséché, mais qui est l'image de la nourriture, de ce qu'on laisse, l'image la plus intime de l'exil. C'est ce gâteau pour un enfant, pour les 7 ans, pour l'âge de raison de cet enfant qui ne va jamais fêter son anniversaire et dont l'anniversaire va toujours coïncider avec la fuite.
Et le riolet a été fait le même jour de l'autre côté de la frontière en France et vous vous êtes rendu compte, Léonore de Recondo, sans même l'avoir réalisé avant, que vous-même faisiez un riolet avant de partir en tournée à chaque fois pour votre fils.
Oui. C'est fou quand même l'esprit, non?
Oui.
J'ai mis des années à conscientiser le geste. J'ai mis des années à me dire, mais t'es en train de faire un riolet. Tu t'en vas et tu fais un riolet. Mais en ayant chaque fois l'espoir de savoir qu'il allait être mangé et par qui. Mais c'est vrai, alors maintenant c'est une sorte de gag familial, le riolet.
Aika mutil jeiki adi argia den miradi. Baina usia argia da, kuroilarra kanpoan da. Aika mutil jeikia di, argia den miradi.
Un très beau chant basque trouvé par Franck Olivar, Aïka Moutil de Mikel Laboa, 1974, un hymne à la beauté. Et j'aimerais qu'on évoque, Léonore de Recondo, votre culture espagnole et votre culture basque, tout ce qu'on vous a transmis et tout ce qu'on ne vous a pas transmis, puisque vous suppliez votre père à l'époque de vous apprendre et l'espagnol et le basque. Vous parlez espagnol, mais vous êtes débrouillée toute seule, et le basque, ça ne rentre pas.
Non, bah, le basque, c'est quand même très difficile. L'espagnol, je parlais l'italien, puis bon, l'espagnol, au gré des amitiés et de la vie, c'est une langue beaucoup plus simple à apprendre que le basque. Non, le basque, j'ai pas réussi, j'ai tenté, donc j'ai toujours cette méthode à 6000 que je reprends régulièrement avec cet espoir fou. Et c'est vrai que c'est une très très belle langue quand on l'entend comme ça chanter, quand on l'entend parler, absolument incompréhensible, sinon on peut s'accrocher à rien. Rien ne ressemble à rien. Donc c'est cette très très grande beauté de cette langue et que je ne connais pas, que je ne saurais, je crois, jamais.
Dans un instant, ne dites pas jamais, ne vous condamnez pas. Déjà,
non,
un jour,
non,
vous changerez peut-être d'instrument
peut
et vous ferez de la harpe, on ne sait pas.
C'est vrai, c'est
on ne sait pas, tout est possible. Dans un instant, on va parler de votre livre « Marcher dans tes pas », dans lequel vous racontez en détail une loi récente qui a permis aux descendants d'exilés politiques de récupérer la nationalité espagnole. Vous avez mis 9 mois, vous, à vous décider à la demander. Je ne vais pas raconter tous les détails, mais je voulais savoir si... Est-ce que je peux quand même dire ce qui s'est passé comme résultat?
Mais oui.
Si vous l'avez ou si vous ne l'avez pas.
Mais bien sûr.
Eh bien, vous l'avez.
Oui.
Est-ce que ça change quelque chose d'être binational?
Oui, je vous le conseille.
Oui,
oui.
Bah c'est en cours, mais je ne sais
voilà.
pas si ça va marcher.
Mais c'est... Oui, ça a un sens... C'est ça qui m'a beaucoup questionnée. Donc, peut-être pour expliquer un tout petit peu pour les auditeurs qui ne connaissent pas cette loi. Une loi est promulguée en 2022 en Espagne, qui s'appelle la loi de la mémoire démocratique, et qui permet donc aux enfants et aux petits-enfants d'exilés politiques de récupérer la nationalité dont leurs ancêtres, parents, grands-parents, étaient déchus. Donc moi, j'entrais exactement dans cet endroit-là. Et... Entre-temps, entre les livres dont vous avez parlé avant, Manifesto, c'est sur la mort de mon père, mais Rêves oubliés, dont j'avais déjà parlé de mes grands-parents, mon père était vivant. Je pense que le décès de mon père a joué quelque chose dans le fait qu'aujourd'hui, c'est moi qui porte l'histoire de cet exil. Qu'est-ce que j'en fais? Moi, je peux ne rien en faire, je me sens tout à fait française et très heureuse ici. Néanmoins, parmi les cousins, puisqu'on est plusieurs... cousins, il y en a qui ont décidé de faire la démarche, d'autres pas. Moi, cette question de l'identité, cette question que je creuse à travers tous mes livres de manière différente, cette question de l'identité, de la frontière, de qui suis-je, comment, de cette quête de soi, alors elle passe, oui, par l'obtention de ce papier, par une forme de réconciliation par rapport à une guerre qui a existé, une guerre civile.
Question, est-ce que maintenant que vous êtes binationale, vous pouvez transmettre la nationalité espagnole à votre fils?
Alors c'est un tout petit peu plus compliqué. Parce que, alors il a 18 ans, donc jusqu'à ses 21 ans, il peut, la démarche pour lui est simplifiée pour l'obtention. Après ses 21 ans, il faudra qu'il fasse la même démarche que moi. Il semble pour l'instant un peu indécis, mais je le laisse libre.
Ah, ça c'est toujours bien les gens
c'est
qui laissent
bien
les
autres
mamans
libres. Qui laissent libre.
Oui.
C'est non, c'est comme si c'était son nom à elle, son nom de famille. Elle s'appelle évidemment Ana Paucha, mais elle se retrouve beaucoup mieux dans cet autre nom, Ana Non, car elle sent que ce nom appartient plus à sa nature que son vrai nom, Paucha. Donc, disons que c'est l'itinéraire d'une femme sans identité.
Léonore de Recondo, j'aime bien quand on découvre des choses dans l'émission pour les auditeurs. Vous avez aimé, adolescente, le livre de Agustín Gómez Arcos qu'on entend sur France Culture en 77, année où il a reçu le prix du livre Inter, justement, pour son livre Ana Non. Et alors c'est amusant puisqu'il a aussi écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Interview de Mrs. Muerta Smith por sus fantasmas, donc par ses fantômes. Interview de Madame Muerta Smith par ses fantômes. Et on va parler beaucoup de fantômes. Un petit mot très bref sur Ana Non.
Ah, c'était une grande découverte pour moi, cette littérature, par cet espagnol qui écrivait en français. parce que c'est non traduit, hein, c'est, il écrit en français, c'est vraiment l'histoire de cette mère qui est dans le sud, en Andalousie, qui retrouve son fils emprisonné dans le nord. Elle va faire un pain qu'elle va porter sur son ventre pour lui porter, et elle va mourir en route. Et c'est ce long chemin extraordinaire. Ça a été une déflagration pour moi de lire Agustín Gómez-Arcos.
Le standard de ce soir était un titre que j'adore, de Psychedelic Furs, Love My Way. If we're not strong enough, we won't hold. If we're not strong enough, we won't hold. If we're not strong enough, we won't hold. C'est votre choix musical, Léonard de Récondo, Strong Enough, d'Émilie Loiseau.
Oui. Émilie Loiseau, c'est une artiste que j'admire beaucoup pour sa cohérence. En fait, c'est assez rare les artistes qui tiennent une ligne dans toute leur œuvre. Je la connais depuis longtemps, je l'écoute depuis longtemps. Et là, son dernier album s'appelle La Souterraine, est très 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 engagé pour l'écologie, pour un accueil de l'autre, un engagement. Je me sens très proche de cette femme et de son engagement artistique. Et justement, est-ce qu'on est assez fort pour tenir?
Je préfère que vous gardiez le suspense.
Zatar, c'est donc le titre du recueil, et c'est le thym libanais. C'est un mélange à partir de thym, de sésame, de sumac et de sel qu'on mange tous les jours le matin au Liban avec de l'huile d'olive. Donc c'est un recueil qui vient clore un cycle de violence qui était celui de la guerre de 2006, mais aussi le départ du Liban. Et il vient un peu porter de la lumière pour nous aider à avancer.
Une autre guerre que la guerre civile espagnole, évoquée ici par Sofia Carampali Farat en 2025 dans une vidéo réalisée par la région Île-de-France. Léonore de Recondo, comme choix pour les auditeurs, vous avez pris le livre « Zatar » publié aux éditions Bruno Doucet.
Oui, c'est un très beau livre de poésie. Et puis, il y a cette figure de grand-mère qui sème le thym sauvage pour que les bombes n'existent plus et pour faire croître quelque chose. Et c'est pareil, le riolet, le thym sauvage, la manière d'utiliser la poésie pour que la beauté surgisse de tous les terrains et même ceux qui sont minés.
Alors, on reste tout à fait dans le sujet en évoquant votre livre « Marcher dans tes pas » paru aux éditions de l'Iconoclaste. Il y a Garcia Lorca en exergue, il apparaît aussi dans l'autre livre chez Verdier. Il y a un poème aussi, il a été fusillé le lendemain du départ de votre famille pour la France. Et ce livre, Marcher dans tes pas, est consacré à votre grand-mère Enriqueta. Et vous écrivez à son sujet. Et c'est drôle, puisqu'en fait, finalement, tout tourne autour de ça. Plus j'écris, moins je te cerne. Mmh. On évoquait le fait, vous savez, il y a beaucoup d'écrivains. On dit qu'ils ne sont l'auteur que d'un seul livre, alors qu'en fait, ils ont une œuvre monumentale, parce qu'ils posent toujours la même question. Mmh. Mais en fait, plus on la pose, parfois, moins on y répond.
Bien sûr. Et puis, c'est l'essentiel, c'est poser les questions. Les réponses, elles viennent ou elles ne viennent pas, mais je crois que la littérature, elle est là pour poser les questions qui sont intimes à un être. Mes questions, elles peuvent, parce qu'elles sont écrites, résonner dans le cœur d'une lectrice ou d'un lecteur et venir apporter une réponse ou une autre question. Et ce sont ces suites de questions qui prennent position, ce sont ces suites de questions qui s'engagent, qui permettent non seulement l'élaboration d'une culture, mais aussi l'élaboration d'une pensée, l'élaboration d'une beauté, l'élaboration d'un engagement politique.
Vous avez choisi pour ce texte, qui est une sorte de livre choral, puisque vous évoquez plusieurs personnages, certains de votre famille, d'autres noms comme Garcia Lorca, un certain Jérémy, lié aux Olympiades, en réponse aux Jeux Olympiques. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais pas les meilleurs, on va dire. Et trois Dolores, dont oui. Une qui s'appelle Lola, mais qui s'appelle en fait Dolores. D'ailleurs, je me suis dit qu'il n'y avait qu'en espagnol qu'il y avait ce nom qui signifiait douleur au pluriel.
Ouais, Dolores.
Comment vous avez construit ce livre par sa forme poétique, puisque parfois vous êtes en fusion avec l'environnement, les éléments, les fantômes. Vous dites « je suis dans la ride du lion de votre père, je suis dans… » Ça peut être des objets.
Alors, ce livre, il vient de la déflagration, de cette loi qui existe maintenant, mais qui, dans la loi, on m'a demandé des papiers, notamment un justificatif de l'exil. Et je n'ai pas de justificatif de l'exil, je n'ai que ce qu'on m'a raconté, et j'ai écrit le livre pour raconter cette vérité-là. Or, la vérité, elle est protéiforme, elle prend plein de formes différentes, elle prend plein de formes dans la narration, et c'est... En passant par la poésie, c'est avec une adresse à ma grand-mère, c'est en parlant des Olympiades, c'est en parlant des combattantes, des femmes invisibilisées, que j'ai tenté, dans cette forme-là, d'écrire la vérité de cette histoire qui donc devient la mienne.
On arrive au terme de cette émission, Léonore de Recondo. Je n'ai pas le temps d'aborder votre livre pour enfants, mais je dis aux auditeurs d'aller voir La Vénus de l'Espugue, puisque c'est un livre pour enfants, Alma et la Vénus d'Ivoire, illustré par Maxime Sudol aux éditions du Musée d'Histoire Naturelle, qui est paru le 2 septembre dernier. Et j'ai découvert, moi, cette Vénus grâce à vous. Et elle est très intéressante, notamment au point de vue de son histoire et de sa forme.
Mmh, absolument.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Marcher dans tes pas est paru aux éditions de l'Iconoclaste. Goya de père en fille chez Verdier et le livre jeunesse Alma et la Vénus d'Ivoire illustré par Maxime Sudol il y a quelques jours aux éditions du Musée d'Histoire Naturelle. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Louise Morfouas et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Frédéric Kiefer.